natin yung news analysis at ito bomba at karan at
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la pollution de l'air tue plus que le tabac, la pollution de l'air tue plus que ce que nous pensions. Selon une équipe de chercheurs allemands de l'Institut Max Planck de chimie, près de 9 millions de personnes meurent chaque année à cause de l'air pollué. C'est deux fois plus que les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Alors qu'est-ce qui nous empoisonne? Nous allons en parler avec notre invité et nous irons à Bangkok, une ville qui suffoque. Bienvenue dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent.
Vous savez, les scientifiques sont désespérés. Ils se trouvent un peu dans la situation d'un humanitaire qui découvre un crime de guerre et qui se dit « maintenant que le monde sait, quelque chose va se passer ». Or, il se trouve que nous savons et rien ne se passe. On est dans un avion en vrille qui est en train de se crasher et ne pas s'opposer à la vrille, c'est encourager le système mortifère qui est actuellement en cours.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Cathy Clairbeau.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la pollution et du climat. Alors est-ce que vous avez l'impression, comme l'astrophysicien Aurélien Barraud, que nous entendions à l'instant, que nous sommes dans un avion qui part en vrille?
Alors c'est oui, l'image est pas mal. C'est surtout qu'on sait de plus en plus de choses et donc on voit de plus en plus d'abord l'impact de la pollution sur la santé des gens et aussi on arrive à mesurer de mieux en mieux cette pollution. Donc on peut plus faire semblant qu'on sait pas en fait, c'est surtout ça.
Alors à partir de là, il va falloir trouver des solutions et c'est là où ça se complique, on va en parler. Alors l'essentiel de votre travail consiste à étudier les données collectées par un instrument assez incroyable qui s'appelle YASI. YASI, ça veut dire interféromètre atmosphérique de sondage infrarouge. Ça mérite quelques explications. Comment fonctionne cet instrument?
Alors, c'est un instrument français qui est à bord d'un satellite qui s'appelle METOP et qui mesure la composition de l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il parvient à mesurer à chaque endroit du globe et il y a environ 1 million d'observations par jour, donc beaucoup de mesures partout. Il parvient à mesurer les concentrations des gaz qui composent l'atmosphère. Et donc, on peut vraiment avoir un suivi. Alors, c'est quasi du temps réel, parce qu'on a la concentration des gaz 2 heures après le passage du satellite. On peut suivre, en fait, les concentrations de méthane, d'ozone, de CO2, de toute une série de gaz qui sont des gaz qui sont importants, soit pour le climat, soit pour la pollution.
Et c'est assez fascinant, hein. J'ai la chance que vous m'ayez envoyé, pour préparer cette émission, un lien vers une vidéo qui sera sur la page internet de l'émission, parce qu'on voit justement, en temps réel, en effet, ces mouvements de polluants que l'on émet de la Terre. On voit aussi le sable hein, qui traverse l'Atlantique en partant du Sahara. Enfin, on voit tous ces mouvements. Et à quoi ça sert d'étudier ça?
Donc les gaz qui sont émis souvent au niveau des villes, ou bien vous parliez du sable, par exemple là ça va être au niveau des déserts, ben, ils vont être transportés par les vents, ils vont rester plus ou moins longtemps dans l'atmosphère selon qu'ils réagissent ou s'il pleut par exemple, ils vont être collés au sol. Et donc à quoi ça sert de les suivre? Ben, c'est de pouvoir vraiment faire des cartographies des endroits sur la Terre qui émettent le plus de gaz en général et de polluants en particulier.
Et ça sert aussi à la surveillance du climat?
Alors, la surveillance du climat, ça c'est un peu plus compliqué parce que les gaz qui sont impliqués dans le climat qu'on observe avec nos satellites, ils restent très longtemps dans l'atmosphère. Donc, un gaz qui a un impact sur le climat, on appelle ça les gaz à effet de serre, il faut qu'il reste plusieurs dizaines d'années dans l'atmosphère. Et donc, ça veut dire que ces gaz-là, ils circulent tout autour de la Terre, ils se mélangent. Et donc, c'est plus difficile de voir où sont les sources. Les sources les plus faciles à observer, ce sont celles des polluants qui sont ce qu'on appelle assez réactifs, qui vont rester quelques jours ou quelques semaines dans l'atmosphère. Ceux-là, on peut vraiment voir, vous verrez ça sur le film, comment ils sont transportés et on voit d'où ils viennent en fait, où ils sont émis.
Alors je le disais en introduction, les conséquences sanitaires de ces pollutions sont énormes, près de 9 millions de morts. Comment est-ce qu'on peut mesurer le nombre de morts liées à la pollution?
Alors ce chiffre-là, ça provient d'une étude qui est plus récente que les études antérieures. C'est une étude parmi d'autres et c'est difficile, ça reste difficile à estimer. Donc comment on fait ça? On observe qu'il y a de temps en temps des pics de pollution et on observe en même temps les taux d'admission, par exemple, dans les hôpitaux, qui ça va concerner les gens qui sont plus fragiles, soit plus âgés, soit qui ont des maladies cardiovasculaires, soit les asthmatiques, par exemple. Et on observe en fait un taux de mortalité plus élevé quand il y a des pics de pollution. Alors, il y a différents types de polluants, on y reviendra peut-être. Et en fonction du type de polluant, de la tranche de population qui est impactée, on fait une estimation du nombre de morts que ça représente par rapport à une journée où il n'y aurait pas de pollution.
Mais ça vous a surprise, vous, d'avoir cette étude qui dit qu'il y a deux fois plus de morts que ce que dit, par exemple, l'Organisation Mondiale de la Santé?
Oui, ça m'a quand même surpris qu'il y ait un facteur 2, mais je sais que ça reste difficile. En fait, on sait tous qu'il y a un impact sur la santé. D'ailleurs, vous le sentez, hein, quand vous circulez dans une ville polluée, vous sentez bien, vous avez tendance plus la gorge qui gratte, les yeux qui piquent, tendance à tousser. Si vous faites du vélo quand il y a beaucoup de pollution, ben on sent qu'on n'est plus impacté. Mais donc, le chiffre exact reste très difficile à donner, puisqu'il faudrait prendre deux types de populations complètement semblables et les soumettre à un régime de pollution intense et les autres pas, et donc
c'est difficile à faire.
Voilà, donc je suis pas étonnée qu'il y ait un facteur 2 dans les chiffres. On sait que la pollution a un impact sur la santé, on sait que ça diminue la durée de vie en moyenne, mais c'est difficile à quantifier.
Et puis on sait finalement tout cela depuis peu de temps, ça ne fait pas très longtemps qu'on s'est calculé tout ça.
Alors ça fait assez longtemps qu'on s'aperçoit qu'il y a des épisodes de pollution et que c'est pas bon pour la santé, mais ça fait depuis moins longtemps qu'on a vraiment une sorte de chiffrage sur les corps de gens qui permettent de donner des chiffres sur le lien entre le type de polluant aussi et l'augmentation du nombre de décès observés.
Alors justement, quels sont ces polluants qui nous empoisonnent? Les grandes familles?
Alors il y a les grandes familles, mais il y en a plusieurs. Donc on va surtout parler des polluants qui restent suffisamment longtemps dans l'atmosphère pour pouvoir être mesurés. Et donc, on va dire le premier de classe, ce sont les particules. Donc, il y a plusieurs types de particules qui vont être classées sur leur taille.
Ce qu'on appelle les particules fines, c'est ça ?
Voilà, particules fines. On parle souvent des PM10 ou PM2.5, c'est juste la taille de la particule en micromètres.
En gros, il y en a une, c'est l'épaisseur d'un cheveu, et l'autre, c'est la taille d'une bactérie.
Encore moins que ça. Donc, 10 microns pour les PM10, c'est tout petit, et PM2.5, encore plus petit. Plus ils sont petits, enfin, plus les particules sont petites, plus elles rentrent dans les poumons, dans le cerveau, dans tout ce que vous voulez. On parle même maintenant de mettre des normes sur les PM1 microns. C'est pas encore le cas, mais on en parle. Donc lui, c'est le polluant dont on sait qu'il impacte le plus sur la santé. Ça, c'est le mieux documenté. On va dire juste après, il y a l'ozone, mais ils sont en général pas en même temps. C'est-à-dire que les particules, c'est plus lié au chauffage, aux véhicules, donc tout ce qui est combustion thermique. Ouais. Et donc ça va être plus élevé en hiver en général, en hiver ou au début du printemps. L'ozone, par contre, n'est pas émis directement à la surface de la Terre. C'est ce qu'on appelle un produit secondaire. Il est issu de réactions chimiques qui impliquent tout un tas de composés. Et donc, lui, c'est plutôt... Il faut aussi qu'il y ait du rayonnement solaire pour l'activer. Et donc, lui, ça va plutôt être en été. Il faut qu'il fasse beau et chaud, en fait, pour avoir de l'ozone. Donc, on va en général pas trouver tous les polluants en même temps. Ces deux-là, on les retrouve à peu près dans toutes les villes ou tous les endroits où il y a une concentration de gens importante, un parc automobile important, etc. On va les retrouver tous les deux. Il y a d'autres polluants qu'on va retrouver en concentration importante si, par exemple, il y a encore des industries qui sont basées sur le charbon. Donc ça typiquement, c'est le monoxyde de carbone et le dioxyde de soufre, SO2. Donc ces deux-là, on va les retrouver beaucoup en Asie. En Europe, comme on ne se chauffe plus au charbon, en fait, cela n'arrête pas de diminuer et on n'atteint plus jamais les seuils qui sont dangereux pour la santé pour ces deux-là. Donc ça continue à être intéressant de les suivre à l'échelle du globe.
Donc il y a tout ce qui est transport, variable. Tout ce qui est production d'énergie, vous le disiez, l'activité industrielle, il y a l'agriculture aussi.
Oui, alors l'agriculture, ça c'est quelque chose d'un peu plus nouveau et qu'on connaissait moins et qui commence à être bien documenté aussi. L'agriculture et l'élevage entraînent des émissions d'ammoniac importantes. Et l'ammoniac, c'est aussi un précurseur de particules. Donc précurseur, ça veut dire que ça conduit à la formation de particules. Et donc on parvient maintenant à quantifier les émissions d'ammoniac de manière très précise et à voir quelles sont les grandes sources d'ammoniac partout autour du globe.
Alors justement, grâce à Yazi qui est installé sur un satellite, donc qui fait le tour de la Terre en permanence, vous avez une vision en temps réel de la pollution du monde. Alors quelles sont les zones géographiques les plus polluées ?
Alors on va dire tout polluant confondu, c'est la Chine, mais ça dépend du type de polluant. La Chine, quand on trace des cartes, nous on a une échelle de couleurs qui fait que rouge c'est le haut de l'échelle de couleurs. Et nous, nos cartes tous les jours en Chine sont rouges sur plusieurs des polluants. L'Inde aussi, en fait, on a vraiment comme une grosse tache rouge sur tout le sud-ouest de la Chine et sur toute une partie de l'Inde, la partie qui borde la frontière entre l'Inde et le Pakistan, qui est très densément peuplée. Il y a beaucoup de pratiques d'agriculture, il y a un parc automobile qui est très ancien. Et donc là, on a des seuils de pollution très élevés tous les jours, à toute période de l'année confondue, je veux dire.
Est-ce que vous avez des données sur l'Afrique ?
Alors, on a, en fait, sur l'Afrique, c'est... Un grand facteur de pollution, c'est par exemple le défrichage des champs où on brûle les résidus de l'agriculture et donc qui va conduire en fait à des émissions de particules élevées dans toutes les zones où on pratique encore ce défrichage. Et donc il y a aussi toutes les grandes villes où le parc automobile est très ancien. Mais si on voit la Terre globalement, en Afrique, ça va être concentré autour des villes, tandis qu'en Asie, c'est comme s'il y avait un continuum de pollution et qu'on ne parvient même plus à distinguer les villes, tellement la pollution s'accumule. Il y a aussi la géographie qui fait que quand on a des montagnes environnantes, par exemple la Chine, il y a cette chaîne de montagnes qui bloque la pollution et qui l'empêche de s'échapper. Mais c'est aussi un facteur dont il faut tenir compte quand on essaie d'expliquer pourquoi la pollution s'installe à un endroit.
Et il y a aussi l'altitude qui joue.
Alors l'altitude joue aussi, plus on est haut en altitude, en fait, plus il y a de rayonnements ultraviolets qui peuvent favoriser la formation d'ozone, par exemple. Donc ça va être un facteur. C'est surtout les villes qui sont dans des cuvettes, en fait. Mexico, typiquement, en fait, est dans une sorte de cuvette. Même si on prend France, Grenoble, parfois, est pollué aussi parce qu'elle est dans une cuvette aussi. Même s'il y a moins d'habitants, s'il y a moins de voitures, l'orographie joue beaucoup pour empêcher la pollution de se disperser.
Et alors la Thaïlande, vous parliez de l'Asie, la Thaïlande n'est pas épargnée, notamment Bangkok, sa capitale, qui est l'une des 10 villes les plus polluées du monde. Le week-end dernier, lors des premières élections législatives depuis le coup d'État de 2014, les questions de la pollution et de l'inaction du gouvernement ont été vivement abordées dans les débats. Il faut dire que depuis le début de l'année, Bangkok vit dans une sorte de brouillard, alors en cause l'absence de vent, l'humidité, la présence d'un couvercle d'air chaud au-dessus de la capitale qui empêche la dispersion des pollements. Et au-delà des raisons saisonnières qui vont se prolonger jusqu'à la saison des pluies en avril, les raisons de la dégradation de l'air sont liées à un millefeuille de facteurs. Le nombre des véhicules en circulation qui dépasse presque les 10 millions, des normes anti-pollution bien loin des standards internationaux pour les bus. Il y a aussi la poussière générée par les travaux du métro aérien et des centaines de chantiers pour faire sortir de terre le Bangkok du futur. Dépassés, inexpérimentés ou pas concernés, les autorités thaï ont pris des décisions plus symbolique que systémique, comme provoquer des pluies artificielles, arroser les rues pour fixer les poussières, interrompre certains chantiers de construction ou encore fermer les écoles pendant quelques jours. Mais c'est largement insuffisant, comme le démontre ce reportage de Julien Trembouze.
Pourquoi vous portez un masque aujourd'hui?
Protection.
Pour me protéger de l'air, de la pollution de l'air.
Moi aussi j'utilise le masque. I have one, me too. Bonjour.
Bonjour. Je pouvais pas vous rater avec le micro là.
Bon, on va essayer de trouver un peu d'ombre dans le parc.
C'est ça, on n'échappera pas à la pollution, hein, mais au moins on sera à l'ombre.
Je m'appelle Olivier Evrard, je suis ethnologue à l'Institut de Recherche pour le Développement.
Je faisais un petit sondage là, à la sortie du métro, là, juste avant de rentrer dans le parc.
Ouais.
Il y a à peu près 80-90% des gens qui portent un masque.
Quel type de masque ils ont?
Alors ils ont vraiment les masques anti-poussière, ceux qu'on utilise, enfin moi dans mon souvenir, ceux qu'on utilise dans les chantiers.
Ouais. Anti-poussière, oui, ça marche pour les particules inférieures à 10 microns, mais les particules inférieures à 2,5 microns, de toute façon elles passent.
Donc le masque que j'ai dans mon sac, il me sert à rien en fait? En partie.
Disons que si, pour les particules inférieures à 10 microns, moi, mais celles qui sont vraiment dangereuses, c'est les plus petites, celles qui vont pénétrer dans vos branches, celles-là, elles passeront de toute façon, quoi. Ou alors, il faudrait vraiment avoir les masques avec réservoir, style un peu... Oui, il y en a qui quasiment font un peu comme les masques à gaz de la Première Guerre mondiale. Là effectivement, vous allez être mieux être protégé, mais enfin, porter ça quand il fait 40 degrés. Hein. Mais vous voyez, c'est l'espèce de masque jetable que vous trouvez dans les blocs opératoires, en fait, juste pour protéger des germes, des choses comme ça. Ça sert absolument à rien. Absolument, il y en a beaucoup qui ont ça, quoi. Et c'est ceux-là qui sont effectivement conseillés par le gouvernement pour essayer de se protéger au maximum. Mais encore une fois, malheureusement, ça arrête pas toutes les particules, quoi. Donc il n'y a pas de solution miracle, la solution ce serait de revoir complètement l'économie telle qu'elle est construite dans cette ville, et ça risque pas d'arriver, je pense, malheureusement.
Bon, c'est quand même trouver un coin bucolique,
ouais, c'est
pour parler de la pollution atmosphérique et du drame de Bangkok.
Bah, du drame de Bangkok, en fait, c'est quoi? C'est la deuxième, c'est la
deuxième année vraiment où on en parle, non? Avant, on n'en parlait pas. Je me rappelle que l'année dernière, vous êtes monté à un indice de pollution qui a dépassé les 400. Cette année, on est pour l'instant en 160, 180. Une prise de conscience qui s'effectue quoi, chez les populations.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la société Thaï? C'est peut-être le gouvernement qui a communiqué peut-être pour la première fois, différemment peut-être aussi.
Je crois que le gouvernement, ils ont été obligés de commencer à communiquer sur les PM 2.5, donc particules inférieures à 2.5 microns. Ben, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a toute une série de sites internet, style AQICN, des sites internet globaux en fait, qui ont commencé à publier ce genre de données. Et les populations y ont accès via leur application mobile. Il y a une technologie de la mesure de la pollution de l'air qui affecte directement la conscience des gens. Après, je pense que de toute façon, la situation empire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les nuages bruns d'Asie, 6 mois par an quasiment. Ça couvre une zone qui va du Pakistan jusqu'à la Chine en passant par l'Asie du Sud-Est. Ça fait 3 km d'épaisseur. C'est observable par satellite depuis le début des années 2000. C'est un mélange de particules issues de la combustion de matières végétales ou des activités humaines comme la construction ou le trafic. Et on vit là-dedans. Et ça empire. Ça empire essentiellement d'abord parce que on a exporté toutes nos activités polluantes en Europe vers l'Asie et que maintenant les deux grands pays que sont l'Inde et la Chine exportent aussi vers l'Asie du Sud-Est. L'autre donnée de base, c'est qu'ils ont le malheur pour eux d'avoir un régime très dual, quoi, c'est-à-dire 6 mois sans pluie, 6 mois avec pluie. Donc quand il pleut, ça se disperse dans la troposphère et ça va aspirer dans la troposphère et ça va se déposer en Europe ou aux États-Unis. Mais quand il ne pleut pas, vous voyez bien, il y a un couvercle atmosphérique. Quoi. Il y a tout un ensemble de facteurs qui jouent, qui expliquent que de toute façon, la situation empire. Et ça, c'est validé par des mesures en fait, que font des scientifiques comme ceux de mon institution, quoi, l'Institut de recherche pour le développement. J'ai un collègue qui est au Vietnam, qui est océanographe, et qui fait du carottage au fond des océans pour mesurer le carbone suie. Donc ça veut dire c'est tout ce qui est issu de la combustion incomplète, puisque tout ce qui se balade dans l'atmosphère finit dans la mer de toute façon. Et donc en faisant ces carottages et en mesurant ces carottes de carbone suie, ils voient très bien que le phénomène augmente. Alors après, dessus se greffent des problèmes politiques, quoi. C'est-à-dire que comme le gouvernement ne veut pas trop soit communiquer, soit prendre des mesures radicales comme arrêter les constructions sur les chantiers au moins le samedi et le dimanche. Et récemment, en fait, le discours sur la pollution de l'air a été un des sujets qui a permis de critiquer la junte au pouvoir aussi. Et donc ils sont dans cette contradiction-là, c'est comment en parler sans mettre en danger leur économie touristique, qui est quand même un des piliers fondamentaux hein, de l'économie aujourd'hui.
Le phénomène de saisonnalité, puisque c'est 6 mois, on va dire, avec un brouillard de pollution et 6 mois où c'est un peu mieux, on va dire, c'est peut-être ça le problème. Comme c'est une saisonnalité, on ne peut pas y faire grand-chose.
Parce que quand vous regardez le taux de particules fines de PM10 ou PM2.5 par satellite à l'échelle du globe, vous vous rendez compte qu'il y a deux gros hotspots. Il y a l'Asie du Sud-Est particulièrement, et puis il y a le Sahara. Et que je sache, il n'y a pas beaucoup d'industrie au Sahara, ni beaucoup d'activités humaines. Bon, ce sont des particules de sable, en fait, ce sont des particules naturelles. Et ça, c'est pas forcément très dangereux pour la santé. Ce qui est dangereux pour la santé, c'est tous les composés chimiques qui se greffent sur les particules.
Vous, personnellement, vous craignez pour votre santé? Vous êtes inquiet de temps en temps, quand même?
Oui, tout le temps. Moi, mon second fils est né à Chiang Mai en 2007, qui a été l'épisode le pire depuis que les relevés existent, c'est-à-dire 1999. Et il a une fragilité bronchique, claire. Les écoles avaient été fermées pendant 2 semaines à ce moment-là. Donc cette pollution de l'air, ce qui nous affecte vraiment de façon très très intime, c'est que c'est notre milieu, quoi, comme les poissons dans l'eau, en fait. Et donc ce qui nous traverse, c'est aussi ce dans quoi on est. Et il y a un sociologue français qui s'appelle Francis Château-Renaud qui a travaillé sur la pollution de l'air à Paris. Il a dit que ce côté extrêmement intime, en fait, ça donne lieu à des formes de feux d'artifice émotionnels. Vous voyez ? Et c'est pour ça que politiquement, c'est extrêmement explosif, moi, je pense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la population s'empare de ce sujet-là pour critiquer la junte et l'inaction de la junte. C'est tellement intime, ça affecte tellement la représentation qu'on a de notre milieu. Là, c'est pas un environnement, c'est un milieu, quoi. C'est quelque chose qui nous traverse. Que ça peut, sociologiquement, ça peut donner lieu à des formes de solidarité ou de contestation qui sont tout à fait étonnantes, quoi.
Quand je me réveille le matin, je ne sais pas si vous faites la même chose, je vais sur Air Visual, qui est un des sites, et je regarde et là c'est écrit, c'est dangereux pour la santé, c'est très dangereux pour la santé, c'est modérément dangereux pour la santé. Je me dis, est-ce que j'ai modérément ou très envie ou pas envie de sortir aujourd'hui?
Mais qu'est-ce que vous regardez dans ces moments-là? Vous regardez, vous avez une notion, en fait, c'est d'air moyen. C'est une moyenne ce que vous regardez. Non seulement c'est un indice, mais en plus c'est un indice calculé sur la base de multiples moyennes. Les couleurs qu'on vous donne, elles sont basées sur des standards qui varient d'un pays à un autre. Donc le standard international, c'est celui de l'OMS, qui est appliqué quasiment nulle part. Ici, on est à des taux largement, je crois que pour les PM2.5, c'est 2,5 fois supérieur au standard de l'OMS, et pour les PM10, on doit être à 3 fois. Donc c'est le seuil d'alerte, il est beaucoup plus haut. Il y a un choix politique derrière, vous voyez, de qu'est-ce qu'on décrète comme étant sain ou potentiellement dangereux ou très dangereux, quoi. Comment on mesure? Qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer le temps réel, on va mesurer la moyenne journalière, on va mesurer la moyenne annuelle. Les recommandations de l'OMS, elles portent sur les trois, et à chaque fois, il y a des chiffres différents, lesquels on choisit. Il n'est pas sûr que la mesure en temps réel soit la plus recommandable, parce qu'elle peut être artificiellement gonflée ou baissée par, alors gonflée si vous avez un chantier à proximité ou passage d'un gros camion, ou baissée par un gros coup de vent. Le capteur, où est-il placé? À quelle hauteur il est placé? S'il est dans un canyon entre des grandes tours comme il y a à Bangkok, vous êtes sûr que vous allez avoir un taux de pollution plus important, parce que chaque passage va resuspendre les particules. Les particules tombent et puis elles se resuspendent. Le capteur, il va en prendre plein. Si vous le mettez en haut d'une tour bien aérée, votre capteur, il va en prendre beaucoup moins. Donc toutes ces incertitudes-là, le grand public, il ne les connaît pas. Lui, ce qu'il voit, c'est son site sur son application, avec la couleur, ce qu'on lui donne. Voilà, c'est potentiellement explosif, ce genre de prise de conscience, quoi.
Dans le trafic depuis la place passager du mototaxi. Voilà, on est dans une partie de la ville où il n'y a aucun transport en commun. Du coup, bon, si j'ai une drôle de voix, c'est que je porte un masque. Hein. Du coup, très peu de solutions étant donné que le trafic est complètement bloqué, même en moto. Là, on a été bloqué par deux énormes bus qui, au démarrage, crachent une fumée noire, et on est dans une espèce de brouillard. Là, il doit y avoir une bonne trentaine de motos autour de moi. Là, on est en train de se faufiler entre les deux bus, les camions. Alors là, on est au cœur du nuage, là. Oh, purée. Voilà, bah, en plus, là, on ne peut plus avancer, donc on s'arrête juste derrière le pot d'échappement. Et j'étais en train de regarder. Alors moi, j'ai un masque anti-poussière, donc c'est ce qui paraît est le plus efficace pour le PM10, pas vraiment pour les PM2.5 parce que c'est très petit et donc ça passerait à travers le masque. Et là, j'étais en train de regarder, mon chauffeur n'a pas de masque, les gens autour de moi n'ont pas trop de masques. Et là, on est en train de se faufiler littéralement dans les entre les bus et les camions. Oh là là, ouais. Voilà, on va essayer de passer. Ouais, on va essayer de passer devant cette énorme camion. Vous pouvez l'entendre là. Ah, vraiment des engins d'un autre temps là qui sont dans la circulation de Bangkok. Hein.
C'est surtout les réseaux sociaux qui agitent aujourd'hui le spectre de la pollution atmosphérique à Bangkok. Et parmi eux, la page de Greenpeace qui relaie beaucoup d'informations. Et je vais justement rencontrer son directeur, Tara Bokhamri.
On doit parler plus fort.
On va avoir du mal à s'entendre, effectivement. Je ne sais pas si vous êtes très content de ma proposition d'aller faire une interview sur le pont.
That's okay.
Alors là, on est à un croisement de route entre plusieurs boulevards de Bangkok. Il y a trois fois trois voies et un énorme embouteillage parce que c'est le matin.
It's a rush hour in Bangkok.
C'est le trafic. L'heure de pointe à Bangkok. Le trafic a toujours été comme ça.
Ce qui est assez étonnant et qu'on découvre avec plus avec les oreilles qu'avec la vue finalement, c'est le bruit du trafic à Bangkok.
Especially the diesel.
Oui, spécialement le diesel 17. Utilisé pour les bus, par les tuk-tuk, les camions, que ce soit les petits ou les gros. Tous utilisent le D17. Ils émettent des particules de métaux lourds et spécialement le PM2.5. Ils produisent aussi d'autres gaz comme l'oxyde nitrogène qui s'ajoute aux particules dans l'atmosphère, ce qui ne fait qu'aggraver la pollution à Bangkok.
Je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à vous entendre. On va peut-être retourner dans votre bureau.
Ah, ok.
Vous êtes inquiet pour votre santé ?
Of course, yes.
Bien sûr, oui. Parce que nous avons fait face au mois de janvier cette année à 22 jours au-dessus des normes nationales de la pollution au PM2.5. On a eu 22 jours d'air extrêmement contaminé et à peine une dizaine de jours où l'air n'était vraiment pas bon. 10 millions de personnes vivent à Bangkok et tous les jours, les habitants sont exposés à de l'air toxique. Si ce problème persiste, nous allons faire face à une grave crise de santé publique.
Bon, on va aller se mettre à l'abri, à l'intérieur. Là, on est devant un petit boîtier, donc il va calculer la pollution. On est à côté d'arbres, on est à l'intérieur, on n'est pas près de la route, et pourtant la pollution, elle est énorme.
Oui, c'est relativement haut. Parce que la pollution atmosphérique se propage très bien. Si on va près de la route, on va trouver encore plus de pollution. La pollution de l'air, et en particulier celle du PM2.5, est aérodynamique. Elle se disperse dans l'atmosphère. En mesurant les taux de pollution dans le même quartier, mais dans différents endroits plus ou moins éloignés de la route, on trouve le même niveau de concentration de PM2.5.
Pourquoi le gouvernement réagit pas ou très peu, informe pas ou très mal ?
Ils font comme si cela n'existait pas. Le gouvernement ignore le fait que ce n'est pas seulement un problème de pollution, mais une urgence sanitaire. Ils doivent regarder les chiffres de nouveau et voir combien nous sommes loin des bonnes pratiques implantées dans les pays à travers le monde. Ce qu'il faut, c'est faire baisser le niveau de pollution à un taux acceptable et sauver la vie des gens, empêcher les enfants d'être exposés à un air toxique.
Thank you.
sur la carte de la pollution de Bangkok, il y a Saphang Khoai. C'est là où j'ai rencontré le directeur de Greenpeace. On va demander un petit peu comment les gens dans la rue vivent cette pollution. Pourquoi vous portez ce masque ?
C'est à cause de la pollution en ce moment à Bangkok et en Thaïlande.
C'est quoi ? Quel type de masque ?
C'est un masque Xiaomi.
Ils sont spécifiques, ces masques ?
Ils ont un mini ventilateur qui aide à mieux respirer.
Courage ! À bientôt. Thank you. Ah, ça, c'est l'hymne de l'université Kasetsart et du département d'économie de cette faculté où j'ai rendez-vous avec Vitsanu Atavanik, économiste très impliqué dans le changement climatique et dans la pollution atmosphérique à Bangkok et surtout son impact sur la santé et l'économie thaï. Vous avez fait des études sur l'impact justement de cette pollution atmosphérique à Bangkok. Qu'est-ce qu'elles disent, les études ?
Je travaille pour quantifier le coût social de la pollution à Bangkok. Dans mes études, j'utilise les infos sur le climat et la pollution pour en quantifier l'impact. Et mes résultats démontrent que le prix de la pollution par foyer est de 6300 bahts par an, soit 175 €. En termes de pollution, nous sommes deux fois au-dessus des standards internationaux de qualité de l'air. Alors, c'est certain que si on utilise la norme nationale, alors là, il n'y a pas de problème. Mais doit-on croire notre norme, la norme nationale, ou celle de l'Organisation mondiale de la santé ? Nous avons des organismes qui ont fait des recherches sur le sujet et ont trouvé que si la pollution dépasse la limite de l'OMS, il y aura forcément des conséquences sanitaires. Vous savez, nous avons un smog en permanence à cause des voitures, des camions. Ils parlent d'arrêter ceux qui polluent beaucoup, mais rien n'est fait. Et on continue de les voir circuler. Concernant les travaux du bâtiment, ils avaient parlé de faire arrêter le travail après 18 heures. Mais ça continue quand même. Le vrai problème du gouvernement, c'est qu'il ne fait pas appliquer les mesures contre la pollution. S'il arrive à faire appliquer la loi et faire de vraies actions, je pense que nous pourrons résoudre le problème. Je voulais également dire que l'un des problèmes est le prix élevé du transport public à Bangkok, si on le compare aux autres moyens de transport. Ça décourage les habitants d'utiliser les transports en commun, contrairement à des pays comme la France, Singapour ou le Japon. Et je pense que ces pays mettent les automobilistes dans une position d'inconfort. Et malheureusement, ce n'est pas le cas en Thaïlande. On encourage les gens à utiliser leur voiture. Dans le futur, si on veut réduire la pollution de Bangkok, il faut absolument réduire le nombre de voitures et changer les habitudes des gens, en rendant le prix des transports en commun accessible à tout le monde, et pas seulement à la classe moyenne.
En comparaison, le prix d'un billet de métro ou de métro aérien, c'est quoi par rapport à la vie des gens ?
Je pense qu'en moyenne, ça doit être 2 ou 3 dollars par jour. Et c'est bien supérieur au prix d'un déjeuner. Et c'est ça le problème de Bangkok.
ฉันนัดตั้งแต่ร้องไห้อยู่ในห้องคลอดอย่ากลัวถ้าเธอจะแพ้ไม่รู้กี่ ล้อเป็นเรื่องบันเทิงถ้าเธอโตมาแล้วสวยจะมีผู้ชายมาหลอกฟันเธอโลกมันก็เป็นแบบนี้พ่อบอกว่าไม่ใช่เรื่องบันเทิงถ้าเธอไม่สวยแต่เธอมีเงินจะมีผู้ชายมาหลอกฟันเธอแล้วเธอก็อาจกลัวว่าจนเธอต้องเลิกไปกินยาอาจโดนเพื่อนสนิทจับกลุ่มติดชินดินชาผิดหวังในความรักเรียนไม่จบปริญญาแต่โปรดอย่ามองว่าโลกมันนี้จะกลายเป็นความชินตาคนเหนือก็ซับจินดาแก้วแหวนและเหนือก็ความสิ่งที่ผู้หญิงหวงแหนคือเธอต้องมีชีวิตไม่เจ็บปวดอย่างสุดแสนสาหัสสักการเพียงใดก็อย่าเอามีดกรีดแขนเพราะแผลหนึ่งแผลแค่เลือดหนึ่งหยดนั้นล้วนมีนมแม่ที่กลั่นมาจากอกลูกเป็นเด็กดีอย่าทำนมหกอย่าเห็นชีวิตเป็นผักปลาเจ็บปวดแค่ไหนให้กลับมาสกปรกออกไปแล้วหลับลาตา
reportage de Julien Trembouze réalisé par François Porcheron. Cathy Clairbeau, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la pollution et du climat. Comment est-ce que vous réagissez à ce reportage? Parce que là, on parle de Bangkok et on entend bien à travers ce reportage qu'il y a un ressenti de la population qui est de plus en plus en colère, des autorités qui ont du mal à gérer. Alors, est-ce que c'est un cas unique, Bangkok?
Non, c'est pas un cas unique. En fait, il y a un tas d'autres villes qui sont très polluées et où la population est en colère. Alors là, on entend les gens, par exemple, qui portent des masques. Et bien sûr, c'est pas la solution. La solution, c'est de prendre des mesures en amont et d'édicter des normes de pollution. Et donc, il faut savoir que ces normes sont variables. Il y a tous les pays n'en ont pas. Il y a qu'une cinquantaine de pays qui ont des normes de pollution auxquelles ils n'obéissent d'ailleurs pas nécessairement. Et surtout, ces normes de pollution sont variables parce que les pays les adaptent au taux de pollution en cours. Donc, par exemple, les normes qui ont lieu en Chine ne sont pas les normes qui ont lieu en Europe, qui ne sont encore pas les normes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé.
Donc, des normes qui s'adaptent ne sont plus des normes.
Voilà,
pour simplifier.
On peut voir ça comme ça, oui.
Il n'y a pas vraiment de normes. Alors, on apprend dans le reportage, vous le disiez, les masques, c'est pas utile finalement, ça marche pas bien.
Alors ça, c'est un peu en dehors de mes compétences, mais si vous prenez un masque standard, les particules passent à travers. Donc, une des personnes de leur reportage le mentionne, ces particules très très fines, en fait, vont passer à travers les masques. Il n'y a que les masques utilisés dans les chantiers, mais je crois qu'il le dit dans le reportage. Oui. Qui permettent vraiment de filtrer les particules. Mais donc ça, c'est
personne n'en
solution. Quoi,
et puis,
ça,
c'est quand il fait très chaud, c'est vraiment inconfortable.
Oui, puis c'est pas ça la solution. La solution, c'est d'essayer d'avoir un parc automobile plus propre, une mobilité plus douce, moins de déplacements, des systèmes de chauffage qui émettent moins de particules, etc. C'est en amont qu'il faut agir, en fait.
Alors, on a fait ce reportage à Bangkok parce qu'il y a eu pas mal d'articles sur la pollution de cette ville depuis le début de l'année. Mais en fait, des villes comme Bangkok, il y en a des dizaines.
Ah, en Chine, il y a des dizaines de villes comme Bangkok, oui. Alors, je veux pas, à la fois, j'ai l'air de dire que la Chine, ce sont les mauvais élèves de la classe. En fait, c'est aussi une conséquence de la délocalisation des biens qu'on produit ici. C'est qu'il y a énormément d'industries qui sont délocalisées en Chine. Et du coup, ils ont des taux de pollution incroyables. Alors, on voit, avec le satellite, on voit que ça évolue parce que il y a une prise de conscience de la population qui, je pense, s'affiche maintenant. Et donc, le pouvoir en place essaye, on voit, de contrôler un peu plus la qualité de l'air. Ça avait été, à l'époque des Jeux Olympiques, ça avait déjà été un premier essai. Mais on voit par satellite, en fait, que même en Chine, les niveaux de pollution stagnent. Et c'est parce qu'ils essayent de faire quelques efforts pour avoir des niveaux de qualité de l'air un peu inférieurs, mais qui restent quand même très, très élevés. Hein.
Oui, parce que c'est très complexe. On l'entend là à Bangkok. En fait, les autorités n'arrivent pas à enrayer cette pollution. Enfin, arroser les rues juste pour faire tomber la poussière, c'est quand même le minimum.
Oui, ça vaut les masques, en fait. Ouais. C'est vraiment.
Comment est-ce qu'on fait à l'échelle d'une ville de 10 millions d'habitants? C'est extrêmement compliqué.
Il faut penser la ville de telle manière à ce que la pollution, ne s'installe pas, c'est-à-dire diminuer les sources de polluants. Donc éviter les vieux parcs automobiles. Les industries qui dégagent toute une série de polluants.
Développer les transports en commun.
Développer les transports en commun, favoriser au niveau de l'agriculture le moins d'usage possible d'engrais parce qu'on génère de l'ammoniac, etc. Mais tout ça, c'est bien connu. Hein. Mais donc, il faut penser la ville globalement pour que, la pollution puisse ne pas s'installer et deux, si elle s'installe, elle puisse être... On doit aussi avoir des meilleures prévisions des pics de pollution. Donc, en France, par exemple, ça marche assez bien. on parvient à souvent enrayer ou stopper un pic de pollution en rendant par exemple les transports en commun gratuits, en prenant des mesures qui font que les pics de pollution ne s'installent pas s'il y a par exemple des situations météorologiques qui font que ça favorise le développement de pics de pollution. En Asie, c'est pas du tout encore le cas. Je pense pas que pour l'instant il y ait des mesures coercitives qui soient prises pour éviter que ces pics s'installent. S'ils ferment les écoles, par exemple, mais ça c'est comme les masques. En fait, la pollution est là, donc on dit aux enfants de pas aller à l'école. Mais voilà.
Alors il y a un côté un peu schizophrénique parce que finalement on est de plus en plus informés, et notamment les autorités en charge de la gestion de ce problème du niveau de pollution, mais il se passe pas grand-chose.
Oui, c'est une bonne question parce que c'est assez ambigu parce que je m'aperçois dans la presse qu'on parle de plus en plus de pollution alors qu'il y a des endroits sur Terre où elle n'arrête pas de baisser. De manière continue, à Paris, la pollution baisse. Et on ne dirait pas que c'est ce que montrent les journaux. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, on connaît d'abord de mieux en mieux les impacts, et puis on mesure de mieux en mieux cette pollution aussi. Donc on en parle de plus en plus, et c'est très bien comme ça, tant mieux, c'est comme ça que ça va aller dans le bon sens pour une amélioration. Et ce qui a changé peut-être depuis quelques années, justement, c'est ces instruments à bord de satellites, parce que maintenant, les pays ne peuvent plus mentir.
Les données sont accessibles à tous.
Voilà, les données sont accessibles à tous. Elles sont
aux ONG comme aux autorités.
Vous pouvez aller voir nos données. D'ailleurs, il y a depuis qu'on a sorti, un papier dans Nature qui montre les mesures d'ammoniac partout autour du globe. Depuis qu'on a sorti ce papier, on a des téléchargements de nos données de Chinois à peu près tous les jours. Donc, je pense qu'ils sont concernés. Les chercheurs chinois, ils travaillent sur ces problématiques. Et au moins maintenant, on sait qu'on a des données indépendantes, donc on ne dépend plus d'un État qui avant faisait rapport de ce qu'on appelle les cadastres d'émissions avec des taux d'émissions pour chaque polluant. Ici, on sait qu'on a des mesures indépendantes par satellite. Le satellite, il voit tout et tout le temps. Et on peut vraiment corriger ces mesures et éviter que les États ne mentent.
Alors, vous disiez, il y a des endroits où ça baisse et des endroits où ça monte, parce que quand même avec la croissance démographique qui augmente, avec la consommation d'énergie qui va avec, la consommation de biens au quotidien qui font tourner les industries, le fait de devoir nourrir de plus en plus de monde, oui. Tout cela crée de la pollution.
Oui, alors peut-être à la louche, c'est plus dans les pays en voie de développement, on a des taux de pollution importants parce que c'est peut-être pas la priorité qui est donnée. C'est quand même des considérations, on va dire, de pays qui ont résolu d'autres types de problèmes qui peuvent se préoccuper de la pollution. Donc dans les pays en voie de développement, on a toujours des taux de pollution très élevés, moins dans les pays industrialisés où on prend maintenant des mesures assez coercitives pour justement regarder les moteurs de voitures, comme ça évolué. Donc on interdit, par exemple, les vieux véhicules diesel de circuler. Donc ça, c'est une mesure forte et qui va conduire à une baisse d'émissions de particules. Et donc, il y a toute une série de mesures comme ça, on ne va peut-être pas tous les citer, mais qui permettent en fait de diminuer les seuils de pollution.
Oui, après, c'est vrai qu'en Europe, on pollue sans doute moins qu'au 19e siècle où on avait beaucoup
Il y a par exemple des pics de pollution. Oui, c'est ça. Il y a un épisode de pollution incroyable qui a eu lieu dans les années 50 à Londres, qui s'appelait le smog de Londres, je crois que c'est en 54, où on fait la corrélation absolue entre le nombre d'admissions à l'hôpital et plein de gens qui sont morts et cet épisode de pollution. Donc ça, on a presque plus jamais dans nos villes européennes des pics comme celui-là. Mais comme on comprend de mieux en mieux ce qui se passe, c'est normal qu'on essaie de mieux en mieux de prendre des mesures pour éviter que ces pics de pollution s'installent. Et aussi une pollution de fond. Hein. La pollution de fond, en fait, c'est difficile de quantifier l'impact sur la santé. On sait que ça a un impact aussi. On met des critères sur ces pics de pollution. Mais bien sûr, si vous restez en permanence avec la pollution de fond, tous les jours, tout le temps, à un endroit, c'est la même chose que si vous prenez un pic de pollution pendant quelques jours.
Et alors, vous dites que dans les pays en développement, il y a de plus en plus de pollution. On l'entendait à Bangkok, la population est quand même très remontée contre les autorités. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va assister à des révolutions de l'air dans les années qui viennent ?
Alors, ce que j'observe, peut-être c'est la Chine que je connais le mieux, parce qu'on a de temps en temps l'occasion de rencontrer les collègues chinois. Ce que j'observe, c'est que la génération actuelle est complètement différente de la génération passée. Par exemple, il y a 20 ans, quand on rencontrait des collègues chinois, ils ne parlaient pas anglais, ils ne connaissaient pas du tout la problématique. Ici, ils sont bilingues anglais-chinois, vraiment, et ils connaissent très bien les problématiques. Donc, je ne doute pas du fait que quand toute cette génération arrivera au pouvoir, les choses changeront, parce que c'est déjà en train de changer très vite, je trouve, au niveau de l'information à la population. Et donc, je pense que c'est eux qui vont mettre la pression sur le pouvoir en place. Il y a déjà maintenant, de temps en temps, le pouvoir dit ben, ils vont faire des classements des villes les plus polluées en Chine. Et ils avaient utilisé cette expression de dire les villes les plus polluées, they will be named and shamed. Vraiment, on allait pointer ces villes-là. Et donc, je pense que ça met la pression et on le voit déjà, en fait, dans nos données satellites. On voit une sorte de stabilisation. Ça n'augmente plus continuellement la pollution. Donc, voilà. Mais je pense que la pression vient aussi du fait qu'on sait qu'on a maintenant des données qui permettent de surveiller sans devoir passer par la communication des différents gouvernements,
en fait. En tout cas, c'est un problème dont on va entendre parler de plus en plus dans les années qui viennent.
Oui, parce que c'est lié aussi au réchauffement climatique. Donc, on peut aussi faire des prévisions de si la température augmente, qui va être le cas avec le réchauffement climatique, mais ça va avoir des impacts aussi sur l'installation de la pollution. Donc, typiquement, l'ozone, dont on a stabilisé les seuils de concentration en été, s'il fait plus chaud, il y aura plus de formation d'ozone. Et donc, c'est un des stress d'avoir ce réchauffement du climat. C'est aussi que ça va avoir des impacts sur le niveau de pollution dans les ville.
Merci beaucoup, Katie Clairbeau, d'être venue dans C'est pas du vent. Et je rappelle qu'on peut voir, hein, les liens sont sur la page internet de l'émission, cette pollution en temps réel sur internet. Et on peut même zoomer très précisément dans la région du monde où l'on habite, hein, Katie Clairbeau.
Oui, on peut faire ça, oui.
Merci beaucoup. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez nous réécouter sur l'application Pure Radio ou vous abonner au podcast de l'émission sur notre page internet www.rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure. Excuse me, mister. Do you have the time? Or are you so important that and still, excuse me, mister, won't you lend me your ear? Are you not only blind, but do you not hear? Excuse me, mister, but is there natural oil in the sea? And the pollution in the air, mister, whose could that be? So I'm a mister too, and you're giving mister a bad name, mister like you. So I'm taking the mister from out in front of your name, 'cause it's mister like you that puts the rest of us to shame. It's a mister like you that puts the rest of us to shame. And I